Laudetur Jesus Christus.
Le dialogue et la réconciliation envers et contre la guerre entre la Thaïlande et le Cambodge, Israël et la Palestine ou en Syrie, Léon XIV interpelle les gouvernants de la planète. Nous revenons sur les paroles du pape après l'Angélus ce dimanche. Un dimanche sanglant dans l'est de la RDC, une quarantaine de fidèles catholiques ont été tués à l'arme blanche par les rebelles islamistes ADF de l'Ouganda. Ils ont pris pour cible une église de Komanda dans la province de l'Ituri. L'actualité internationale est aussi commerciale ce lundi. Les États-Unis et l'Union européenne ont conclu un accord sur 15% de droits de douane. Nous en verrons son contenu vu de Bruxelles. Avant d'écouter le périple d'un jeune catholique français participant au Jubilé des jeunes qui débute aujourd'hui, Louis-Xavier Durieux vient à Rome témoigner d'une aventure sportive sur les routes de la foi. 11 000 km de vélo à la rencontre des chrétiens isolés d'Asie centrale.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Bonjour. Dieu ne nous tourne jamais le dos lorsque nous nous tournons vers lui. Les mots du pape prononcés depuis la fenêtre des appartements pontificaux dimanche midi. Après 2 semaines de repos à Castel Gandolfo, l'évêque de Rome a retrouvé les milliers de fidèles de la place Saint-Pierre pour l'Angélus. Après sa catéchèse dominicale, centrée sur la simplicité de notre relation à Dieu, et avant de saluer les jeunes, entamant donc leur jubilé et les personnes âgées célébrées hier, le souverain pontife a prié pour toutes les victimes des conflits déchirant le monde. Léon XIV appelle au respect de la dignité humaine, exhorte les gouvernants à négocier pour parvenir à la paix. Xavier Sartre.
Il y a tout d'abord le conflit frontalier de ces derniers jours entre la Thaïlande et le Cambodge. Puisse le prince de la paix inspirer tout le monde à chercher le dialogue et la réconciliation, a déclaré Léon XIV, pensant tout spécialement aux enfants et aux familles déplacées. Il y a ensuite le sud de la Syrie, théâtre dernièrement d'affrontements entre druzes, bédouins et forces gouvernementales. Enfin, Gaza, toujours, dont le pape suit avec beaucoup de préoccupation la gravissime situation humanitaire, et où, selon ses mots, la population civile est écrasée par la faim et continue d'être exposé aux violences et à la mort. Le Saint-Père a réclamé de nouveau un cessez-le-feu et surtout le respect intégral du droit humanitaire. Évoquant toutes les victimes des conflits qui déchirent le monde, Léon XIV a aussi lancé cette exhortation.
Ogni persona umana ha un'intrinseca dignità.
Chaque personne humaine a une dignité intrinsèque que lui a conférée Dieu lui-même. J'exhorte les parties prenantes dans tous les conflits à la reconnaître et à arrêter toute action qui lui est contraire. J'exhorte à négocier un futur de paix pour tous les peuples et à rejeter ce qui peut lui porter préjudice. Le pape a ainsi confié à Marie, reine de la paix, les victimes innocentes des conflits et les gouvernants qui ont le pouvoir d'y mettre fin.
Xavier Sartre. Un week-end meurtrier dans le nord-est de la RDC. Après plusieurs mois d'accalmie, pourtant, les terroristes islamistes ADF ont fait une nouvelle incursion dans la province de l'Ituri, à Komanda. Le bilan est tragique est d'une quarantaine de morts tués dans une église catholique dans la nuit de samedi à minuit à dimanche, aux alentours de minuit. Il s'agissait pour la plupart de catéchumènes qui préparaient leur confirmation lors d'une veillée de prière. La correspondance sur place d'Augustin Mossangué.
C'est un dimanche sombre à Komanda, territoire du Rumu, à 75 km de Bunia, en province de l'Ituri. En pleine veillée religieuse de catéchumènes qui devaient recevoir le lendemain le sacrement de confirmation, la nuit du samedi à hier dimanche, les terroristes islamistes ADF font incursion et assassinent une vingtaine de chrétiens. Des déplacés qui vivaient aux alentours de l'église sont aussi tués. Le quartier Beyebouli, qui est au centre de Komanda, ont été la cible de ces terroristes qui ont incendié par la suite commerce, habitations et même des véhicules. Le président civil du Rumu fistige le fait que les carnages se soient passés non loin d'une position de l'armée congolaise. Pascal Kisezo s'étonne que cet acte horrible intervient après un moment d'accalmie observé dans ce coin. Les autorités militaires disent être arrivées sur les lieux du drame après que les assaillants se soient enfouis en prenant la direction des monts Oyo où se trouverait leur bastion. La police et la coalition Forces armées de la RDC et armée ougandaise se disent mobilisées pour sécuriser la population et poursuivre la traque de ces rebelles ADF. Goma, Augustin Monsangui, Radio Vatican.
L'Église de France a exprimé, elle, sa profonde tristesse, assurant prier pour les chrétiens d'une région déjà si éprouvée. En Afrique, les islamistes radicaux également à la manœuvre en Somalie. Après de violents combats avec l'armée, les Chebabs liés à Al-Qaïda ont pris ce dimanche le contrôle de la ville stratégique de Maxas, au centre du pays, à 300 km de Mogadiscio. Maxas était tenue par les troupes éthiopiennes jusqu'à ce qu'elle cède la base militaire à l'armée nationale somalienne en août 2024. L'Éthiopie, qui accueille depuis hier et jusqu'à demain dans sa capitale le deuxième sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. Sommet centré donc sur l'éradication de la faim et développement pour y parvenir, co-présidé par l'Italie. La présidente du Conseil est arrivée sur place dimanche où elle a rencontré plusieurs religieux missionnaires italiens. La population civile écrasée par la faim dans la Corne de l'Afrique, mais aussi à Gaza. Nous l'avons entendu hier, le pape s'est une nouvelle fois inquiété de la situation humanitaire. La voix du souverain pontife s'ajoute à toutes celles religieuses ou civils qui, ces dernières semaines, ont pointé du doigt la famine qui sévit dans l'enclave palestinienne et qui ont peut-être contribué à une ouverture du gouvernement israélien. Ce dernier a annoncé ce week-end l'ouverture de couloirs humanitaires et une pause dans les combats. Jean-Charles Puzolu.
Les premiers camions ont franchi hier la frontière entre l'Égypte et la bande de Gaza pour apporter de l'aide humanitaire qui manquait depuis 5 mois aux habitants du territoire assiégé suite aux attentats du Hamas du 7 octobre 2023. 60 camions envoyés par la Jordanie, c'est peu, dénoncent plusieurs ONG qui se sont alarmés d'une flambée de la malnutrition infantile et d'un risque de famine généralisée. Outre ce premier convoi, des largages aériens, israéliens et jordaniens se sont poursuivis hier aussi, même si ce genre d'opération comporte des risques pour les habitants. Des précédents largages avaient fait plusieurs victimes, dont des noyés qui tentaient de récupérer des vivres tombés en mer. L'entrée de cette aide humanitaire suit l'annonce par Israël d'une pause tactique, une trêve donc dans les combats tous les jours de 10h à 20h, une pause qui devrait permettre aux Gazaouis de ne plus se faire tuer en essayant de récupérer des colis alimentaires. Le retour de l'aide humanitaire à Gaza est interprété par de nombreux observateurs comme une flexion du gouvernement israélien pressé par la communauté internationale, les ONG et les médias face au risque accru de famine qu'encourent les Gazaouis. Ce geste est cependant critiqué par l'extrême droite de la coalition dirigée par Benjamin Netanyahou. Cette aide est préjudiciable, a déclaré le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben-Gvir.
Merci Jean-Charles Puzolu. Cinquième jour de combat meurtrier en Asie du Sud-Est entre le Cambodge et la Thaïlande. Des voisins hostiles également dans les pensées du pape Augustin ce dimanche. Un espoir de cesser le feu pointe ce lundi avec la réunion pour la première fois des belligérants en Malaisie. Depuis jeudi, les échanges de tirs ont fait au moins 35 morts, provoqué le déplacement d'environ 200 000 personnes. Des messes pour la paix et la fraternité étaient célébrées dans les églises du Cambodge ce dimanche. De même en Thaïlande où les évêques catholique insiste sur la réconciliation des cœurs. Dans le reste de l'actualité internationale, les tractations commerciales entre Américains et Chinois se poursuivent ce lundi à Stockholm en vue d'une pause. La troisième rencontre entre les deux premières puissances mondiales après Genève et Londres à l'approche de la date fatidique du 1er août à laquelle les principaux partenaires commerciaux américains devront connaître une hausse substantielle de leurs droits de douane. Pour l'Union européenne en tout cas, le sort est scellé. La présidente de la Commission européenne et le président américain sont parvenus hier en Écosse à un accord sur 15% de taxes imposées aux produits du vieux continent. Les explications d'Hélène Loison.
L'ensemble des détails de cet accord ne sont pas encore connus, mais la ligne directrice est claire. Les produits européens qui entrent aux États-Unis seront désormais taxés à hauteur de 15%. Les deux parties se sont accordées pour exempter mutuellement certains secteurs, l'aéronautique par exemple, mais aussi certains produits chimiques, ainsi que des produits agricoles, des médicaments génériques. Les semi-conducteurs sont eux aussi exemptés, tout comme certaines matières premières. Un autre volet de l'accord concerne cette fois les investissements européens aux États-Unis. Plusieurs clauses mentionnent l'achat de matériel militaire américain par l'Union européenne, l'investissement de plus de 600 milliards de dollars sur le sol américain et l'achat pour 750 milliards de dollars d'énergie américaine sur 3 ans, notamment des hydrocarbures qui remplaceront les achats européens en Russie. Cet accord doit maintenant être validé par les États membres de l'Union européenne. Une réunion des ambassadeurs des 27 est attendue très prochainement. À Bruxelles, Hélène Loison pour Radio Vatican.
Cet accord prévoit en effet un large volet énergie avec l'achat européen de gaz naturel liquéfié américain pour remplacer ceux de la Russie. Russie qui peut toujours compter sur ses alliés latino-américains comme le Venezuela où le régime Maduro sort encore une fois renforcé un an après sa victoire proclamée à la présidentielle. Le régime a remporté une majorité de villes lors des élections municipales hier, scrutin boycotté par l'opposition. Dans l'actualité, Vatican, le secrétaire du Saint-Siège pour les relations entretien avec les États poursuit jusqu'à demain sa visite au Mexique. Monseigneur Gallagher a célébré la messe hier au sanctuaire de Guadalupe. Il participe à l'Assemblée générale de la Fédération internationale des universités et catholiques. Et puis ce dimanche en France s'est achevé le jubilé de Sainte-Anne-d'Auray en Bretagne. 30 000 fidèles selon les organisateurs. Léon XIV y avait dépêché le cardinal Robert Sarra comme son légat. C'est le seul événement jubilaire de l'été à Rome. Le jubilé des jeunes débute ce lundi. Il durera une semaine, se terminant par une veillée de prière samedi, puis la messe d'envoi présidée par le pape. Ce sera dimanche à 9h30 sur l'esplanade de Tor Vergata, en périphérie de Rome. Elle a connu de grandes heures sous Jean-Paul II. 500 000 de jeunes de 18 à 35 ans de 146 pays sont attendus. 90 000 viennent d'Italie, 25 000 de France, mais aussi 400 de Suisse romande, 1000 du Canada ou de Corée du Sud, qui se prépare d'ailleurs au grand rendez-vous des JMJ de 2027. Parmi eux, pour célébrer l'espérance de cette année sainte, Louis-Xavier Durieux, au parcours inspirant, il a passé 9 mois à rencontrer les chrétiens d'Asie mineure sur son vélo. Parti de Marseille en octobre dernier pour rallier Oulan-Bator en Mongolie, ce jeune étudiant de 23 ans a rencontré les communautés catholiques locales en Arménie, au Tadjikistan, en Ouzbékistan. Venu à Rome pour témoigner de son aventure sportive, mais surtout humaine et spirituelle, il raconte son périple d'11 000 km sur les routes de la foi.
Déjà, il y avait un peu cette envie de partir à l'aventure, en totale autonomie, un peu sur les pas d'un Hilaire Rigaudy, d'un Sylvain Tesson, d'un Alexandre Poussin. En lisant leurs livres, j'avais cette envie de partir. Et donc ensuite, j'ai eu envie de mettre un peu de sens à ce projet. Je n'avais pas envie de partir pour moi seul. J'aurais eu du mal à avancer. Et donc, l'année dernière, pour la petite histoire, j'avais passé 4 mois au Sénégal. Et j'avais trouvé très beau de voir une autre manière de vivre sa foi qu'en Occident, qu'en France. Et donc je me suis dit, cette année, j'ai rencontré beaucoup de pays, ça peut être une bonne opportunité de rencontrer les autres communautés catholiques, voir comment elles vivent leur foi malgré un isolement et une minorité assez importante.
Quelle est la chose qui vous a marqué au cours de votre périple lors de vos rencontres avec les communautés locales?
Que ce soit en Turquie, dans le Caucase, dans les Centrales ou en Mongolie, c'est vraiment cette joie et cette espérance que j'ai pu vivre dans les différentes communautés où je suis allé. J'ai rarement en fait vu une joie aussi intense, aussi rayonnante sur les visages de ces missionnaires qui viennent de l'autre bout du monde. Quand on passe dans une communauté en Turquie où il y a des frères et sœurs qui viennent des Fidji, des Samoa, en Mongolie où ils viennent de Tanzanie, d'Éthiopie, ils rayonnent de joie et rayonnent d'espérance malgré des difficultés quand même assez intenses. Et il y a beaucoup de signes aussi qui le montrent. Moi, je garde en tête notamment un exemple au Tadjikistan où j'ai rencontré l'église tadjik où il y a 9 millions d'habitants dans ce petit pays montagneux. Et il y a seulement 120 catholiques. Et il n'y a qu'une seule paroisse à toute Chambé. Et j'avais pu rencontrer le premier prêtre tadjik de l'histoire de ce pays. Ils se sentent vraiment portés par le Christ.
Quelles sont les difficultés de ces petites églises? Le pape François les appelait « petits troupeaux » que vous avez constatées.
C'est surtout des difficultés liées à l'aspect sociétal, à l'aspect politique, avec des discriminations en termes de droits et de possibilités. Il n'y a pas vraiment de persécution physique dans ces pays-là. Par exemple, liées à l'interdiction pour les prêtres de célébrer la messe au moment de leur arrivée dans le pays, au Kirghizistan, ils doivent demander une autorisation auprès du gouvernement qui met 2-3 mois à arriver. Il y a pas mal de pays aussi où le catéchisme et la messe est interdite aux enfants, donc au moins de 18 ans, au Tadjikistan, au Kirghizistan, en Mongolie, en Chine bien sûr. Et puis évidemment l'interdiction de construire des églises, ou en tout cas l'extrême difficulté d'avoir cette autorisation-là, l'interdiction de faire des processions. En fait, la vie paroissiale doit vraiment se cantonner à l'intérieur de l'enceinte de la paroisse. Globalement, c'est un peu une réalité générale dans l'ensemble de ces pays-là.
Qu'avez-vous appris personnellement, j'allais presque dire spirituellement, lors de ce voyage?
Je dirais qu'il y a deux éléments qui se détachent. C'est cet abandon et cette confiance en la Providence, dans le bon Dieu. Et là, c'est peut-être plus lié à la solitude lors de ces 10 mois de vélo, face aux difficultés physiques, face aux éléments. Cet abandon, cette confiance vraiment incroyable qu'on peut vivre dans la Providence, où inconsciemment on se sent vraiment dépendant du bon Dieu. Je voyais pas comment je pouvais faire sans cette prière, sans cet abandon. C'est ces deux éléments, abandon et confiance, qui sont surtout liés à l'expérience physique, à l'expérience du voyage à vélo, conforté et réconforté par cette rencontre avec les communautés catholiques qui ne peuvent qu'encourager dans ce sens-là par ce témoignage assez incroyable qu'ils envoient.
Et enfin, peut-être une dernière question. Quelle va être la suite après cette aventure pour vous?
Eh bien, ça va être de clore un peu l'aventure du voyage pour rentrer dans l'aventure du témoignage. D'ailleurs, le faire à Rome est un merveilleux signe pour moi qui ai rencontré les communautés catholiques de par le monde, en tout cas de par cette partie du monde. Eh bien, faire cette transition entre la partie voyage et la partie témoignage à Rome, au cœur de l'Église, au cœur du Vatican, c'est quelque chose de très beau et c'est une merveilleuse opportunité. Et puis la suite, elle est encore à écrire, elle est encore à vivre. De fait, quand on voyage, ça ne peut donner qu'envie de voyager à nouveau. Il y a plein de projets qui germent pendant qu'on voyage, il y a plein d'idées, il y a plein de projets qui naissent et qui maintenant restent à écrire.
Interrogé par Jean-Benoît Harel, Louis-Xavier Durieux, jeune étudiant engagé de 23 ans, participant au Jubilé des jeunes.